L'invité.
Le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang, temps fort de partage, de solidarité et d'engagement. Elle vise à remercier les donneurs et bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année et à inciter de nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour la première fois. Dans le Rhône, la journée mondiale des donneurs de sang sera mise à l'honneur une bonne partie de la semaine avec des collectes à Écully, au Temple du Change à Lyon et à l'Hôtel de Ville de Lyon, place des Terreaux. Pour en savoir plus sur ce don du sang, le docteur Vincent Bost, responsable des prélèvements du Rhône, et Anna Josephson, chargée de communication du Rhône, sont avec nous. Bonjour.
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 La journée mondiale a été initiée en 2004 par l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi est-ce important une journée mondiale des donneurs de sang ?
Eh bien, comme vous venez de le dire en introduction, c'est important de remercier, et c'est le premier objectif de cette journée, ce sont les remerciements à destination des donneurs, de tous les bénévoles qui nous permettent d'organiser les collectes, de toutes les institutions qui nous aident également, et jusqu'au personnel de l'EFS, il y avait cette volonté de remercier tout le monde sur cette période.
C'est la 15e édition cette année. Comment a évolué la perception du don du sang en 15 ans ?
Alors, je ne sais pas si la perception a réellement évolué. On a toujours la nécessité de communiquer malgré tout pour essayer de transmettre les besoins qui, eux, sont constants. Et on se rend compte que, en fonction du temps, la perception de ce besoin n'est pas toujours la même. En tout cas, les moyens de communication doivent évoluer avec les générations qui arrivent et on court un peu après, on essaie de s'améliorer pour être de plus en plus performant sur nos moyens de communication.
Il y a également peut-être un autre aspect, c'est qu'il y a des changements au niveau de notre société. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans un milieu urbain, ça change un petit peu aussi l'apparence des collectes. Les gens sont plus disponibles en ville, donc c'est pas tout à fait le même horaire d'accueil, les temps d'accueil sont pas les mêmes, les interlocuteurs sont pas les mêmes non plus. Aussi la mise en place de maisons comme la Maison du Don qui permet d'accueillir et qui est à Confluence et qui mérite d'être connue. C'est vrai que c'est un bel endroit et qui est ouvert en fait 6 jours sur 7. Et c'est vrai que ça répond à une autre manière de donner son sang.
Vous disiez tout à l'heure, docteur Bost, qu'il y a toujours cette nécessité de communiquer autour du don du sang. Pourquoi aujourd'hui on sait qu'il faut donner son sang ? C'est quoi ? C'est un manque de volonté ? On n'a pas forcément envie, on ne sait pas trop comment ça se passe. Comment est-ce qu'on explique finalement ce besoin constant de communiquer ?
J'ai souvent une façon simple de l'expliquer, c'est-à-dire que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que s'il avait un besoin de sang pour lui ou un proche, ça lui paraîtrait normal que ce soit à disposition. Et dans la même conversation, si on demande aux gens comment ils participent à ça, eh bien malheureusement, une grande majorité fait encore de grands yeux en se disant « c'est vrai, je ne l'ai jamais vu sous cet angle ». Et donc s'il y a un petit peu moins de 5% de la population qui est en mesure de donner, qui donne réellement, c'est sans doute parce que ce message n'est pas encore complètement passé. Donc il faut qu'on travaille pour expliquer aux gens ce besoin, pour leur en faire prendre conscience. C'est pas compliqué parce que dès qu'on l'évoque, tout le monde comprend parfaitement le besoin et le parcours du don du sang.
Vous dites 5%, ça veut dire qu'en gros aujourd'hui en France, les malades sont soignés grâce à 5% des Français ?
Oui, c'est bien le chiffre.
Et à peu près 94 ou 95% des Français, quand on leur pose la question, est-ce que vous seriez d'accord pour donner votre sang ? Oui, bien sûr. Donc il y a une marge quand même de progrès assez importante.
C'est le moins qu'on puisse dire. Quelle est la place des donneurs de moins de 25 ans ? On le disait tout à l'heure, vous essayez finalement de vous adapter à cette nouvelle génération. Comment ça se passe ?
En général, en fait, les donneurs, les jeunes donneurs sont relativement sensibles ou facilement sensibilisables. Donc si on fait des mesures dans leur sens, il y a une bonne réponse. Après, ce qui se passe, c'est que les générations actuelles sont un peu plus, j'allais dire, dans l'instant. Donc s'il n'y a pas de rappel, ce sont des choses qui s'oublient. Et je pense aussi que par nos méthodes de communication, on a un petit peu habitué les gens à ce que lorsqu'on a besoin, on appelle. Donc par défaut, si on n'appelle pas, les gens considèrent qu'on n'a pas de besoin, ce qui est évidemment faux. Et je permettrait de rappeler souvent que les besoins sont au quotidien, bien évidemment.
Pourquoi justement est-ce que ces besoins sont autant au quotidien ?
Parce que les besoins répondent à des nécessités qui sont du soin dans tous les domaines. On a souvent tendance à voir le don du sang pour les phénomènes hémorragiques, c'est-à-dire tout ce qui est accidentologie qui saigne beaucoup, qu'il faut compenser. Ce n'est pas la majeure partie de l'utilisation. Il y a tout ce qui est maladie chronique, type cancer, qui fragilise tellement les gens que il y a un moyen de passer certaines étapes qui deviennent nécessité de recevoir des produits sanguins. Et puis il y a un grand nombre de pathologies plus rares mais tout autant invalidantes qui nécessitent des produits dérivés du sang, c'est-à-dire à partir du traitement secondaire du sang, on arrive à extraire des éléments qui sont absolument nécessaires pour certaines catégories de malades.
Il y a un chiffre qui est peut-être parlant, c'est que chaque jour on a besoin, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de 1400 dons.
Chaque jour.
Ça donne un petit peu un niveau d'échelle.
Parce qu'en plus, le sang se conserve pas beaucoup, je crois, quelques jours. tout au plus.
Il y a schématiquement trois éléments différents. Celui qui est le plus fragile, ce sont les plaquettes qui se conservent 5 jours. Les globules rouges se conservent 42 jours et le plasma ensuite congelé peut se conserver plus longtemps.
D'où l'importance effectivement de donner régulièrement. Combien de fois, on va parler un peu donc plus des donneurs en eux-mêmes, combien de fois est-ce qu'on peut donner dans l'année, dans le mois, les questions un peu peut-être qu'on peut vous poser?
Alors on va commencer par ce qui est le don le plus classique, qui est le don de sang total. Donc entre deux dons consécutifs, il faut un minimum de 8 semaines, tout en sachant qu'il y a un maximum de 6 dons par an pour les hommes et de 4 dons par an pour les femmes. Et pour d'autres types de dons, on peut avoir une fréquence plus élevée. Alors ceux qui veulent vraiment faire des records, on peut donner jusqu'à 24 fois par an, parce que le plasma peut être donné tous les 15 jours, et on peut alterner des dons de sang et de plasma qui permettent de donner quelque chose tous les 15 jours.
Quelles sont les conditions assez classiques du don du sang? Alors, être majeur, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres comme conditions pour les auditeurs, peut-être, qui se disent « Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai jamais donné mon sang, mais est-ce que je peux le faire ?»
Déjà, on a l'habitude de dire qu'il faut se sentir en forme, parce que dès qu'on est fatigué, qu'on est enrhumé, qu'on a des allergies trop importantes, des choses comme ça, c'est pas le meilleur moment pour le faire. Donc être relativement en forme, il faut évidemment annoncer au médecin les traitements qu'on peut avoir de façon régulière ou de façon aiguë. Il faut éviter tout ce qui est épisode infectieux, en cours ou trop récent. Certains soins, certaines explorations qui sont à risque infectieux pour nous, parce que notre obligation, au-delà des tests qui sont refaits pour qualifier les dons, c'est évidemment de pouvoir garantir au receveur la sécurité du produit qu'on lui propose pour le soigner.
Nous avons sur le site internet Don de sang, EFS, on peut aller se renseigner, on peut répondre à un questionnaire en fait en ligne qui permet déjà de savoir est-ce que c'est la peine que je me déplace cette fois-ci ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende le mois prochain ou dans 2 mois en fonction des réponses qu'on a données. Ça permet au moins de se situer.
Et comment ça se passe concrètement, un don du sang? On arrive, on se dit voilà, bonjour, je voudrais donner mon sang. Ensuite, c'est quoi?
C'est relativement bien codifié. On arrive, effectivement, on se présente, on donne la preuve de son identité pour être inscrit. Et une fois l'inscription réalisée, on passe vers l'entretien pré-don qui est encore majoritairement réalisé par des médecins, mais de plus en plus par des infirmiers habilités à l'entretien pré-don. Et cet entretien détermine justement votre aptitude à passer à l'étape suivante, qui est le prélèvement. Tout à l'heure, j'avais évoqué le risque receveur, mais sur cette position à l'entretien pré-don, on évalue bien évidemment en premier le risque donneur et ensuite le risque receveur. Il faut qu'on puisse dire, face à ce qu'on apprend en quelques minutes du donneur, que le fait de nous donner l'équivalent d'une poche de sang ou de ce qu'on va lui prélever ne lui fait prendre aucun risque. Donc après cette certitude acquise, accompagnée de celle qu'on puisse donner son sang à quelqu'un sans lui faire prendre non plus de risque, on peut passer à l'étape suivante qui est celle du prélèvement, qui se déroule alors, on va dire, en une dizaine de minutes lorsque c'est du sang total. Pour des procédures comme le plasma, c'est plutôt une petite heure, voire une heure et demie pour les plaquettes.
Qu'est-ce qu'on se dit lors de cet entretien pré-don?
On se dit tout, pourquoi? Il n'y a rien à cacher. Non, c'est un entretien qui est assez codifié. Il y a un questionnaire qui est à remplir avant, qui a comme objectif de faire le tour des questions les plus importantes, également de ramener un petit peu à une mémoire plus récente des choses qui peuvent paraître anciennes, parce que ce n'est pas des questions qu'on se pose tous les jours, et de manière à ce que lorsque le médecin va poser ses questions, vous soyez déjà dedans et que les réponses soient plus faciles, plus positionnées dans le passé, sur des agendas, calendriers, etc.
Alors, on parlait tout à l'heure effectivement d'un questionnaire en ligne pour savoir si c'était la peine de se déplacer. J'ai vu aussi qu'un espace donneur a été créé, donc un espace donneur en ligne a été créé sur le site de l'EFS. Qui trouve les donneurs sur cet espace?
C'est effectivement un espace qui correspond en gros à une possibilité de préciser le profil du donneur. Donc ceux qui sont déjà donneurs vont retrouver tous les types de dons qu'ils ont faits, avec le nombre de dons par type de don. Ensuite, on va trouver des coordonnées administratives qu'on sera en mesure de préciser si on a déménagé, si on a changé certaines choses notées dans notre dossier. Et surtout, ça permettra également de mettre à jour ce qu'on appelle nous les ensembles, mais les lieux de collecte sur lesquels on est sollicité. Parce qu'il y a des gens qui sont des grands voyageurs et qui ont donné beaucoup d'endroits et du coup risquent d'être invités sur des endroits qui ne leur correspondent plus ou souhaiteraient être invités ailleurs. Donc c'est une chose que chaque donneur va pouvoir préciser avec cet outil.
Cette journée mondiale des donneurs de sang, elle arrive toujours le 14 juin. C'est un peu avant les premiers départs en vacances, période habituellement creuse pour les dons de sang, mais aussi j'imagine de plasma et de plaquettes. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important de remobiliser les donneurs à ce moment-là particulièrement?
C'est une occasion en fait pour toucher de nouvelles personnes aussi. On a beaucoup d'événements tout au long de l'année, on a des événements qu'on fait avec des associations, etc. Mais là, c'est vraiment la journée mondiale, tout le monde en parle, la France entière en parle. Et donc, c'est vrai, c'est quand même un comble si dans la ville où vous habitez, Lyon ou à Écully, pour nous dans le Rhône, si vous n'entendez pas parler de cette journée, et c'est l'occasion d'expérimenter pour une première fois ce don du sang, dans des meilleures conditions en plus. Je pense qu'il y a un côté festif, il y a des lieux qui sont un peu emblématiques, comme le Temple du Change, par exemple, qui est un lieu assez magnifique. Il y a des musiciens qui vont venir bénévolement pour jouer de la musique Renaissance, pour le plaisir des donneurs. L'hôtel de ville ouvre ses portes aussi. C'est la ville de Lyon qui, chaque année, depuis plusieurs années, ouvre l'hôtel de ville pour les donneurs. C'est un cadre prestigieux, c'est joli. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là aussi pour la partie collation, qui est très importante aussi. C'est vrai que donner son sang, c'est pas uniquement donner son sang, c'est une expérience humaine aussi. C'est une aventure humaine. On arrive, on est accueilli et après, on a quelque chose à partager. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien venir à plusieurs. C'est l'occasion aussi de faire quelque chose ensemble. Donc je pense que la journée mondiale, elle répond à tout ça. C'est de créer quelque chose un peu spécifique, un peu festif.
C'est ça qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, donc de la collation après le don. C'est important, ce moment de collation aussi, même pour le donneur, pour qu'il puisse aussi se reprendre peut-être ?
Oui, alors je dirais que ce qui est très important, c'est tout au long du don de boire beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on vous prélève quand même une poche de 480 millilitres. De sang, donc c'est du liquide qui part. Et comme dit M. Bost, c'est un peu un système hydraulique. Hein. On enlève 480 millilitres, donc il faut en remettre autant si ce n'est plus. Et donc c'est vrai que, personnellement, moi, quand je bois un litre ou un litre et demi pendant le don, j'ai aucun malaise après. Alors que si je bois pas assez, je me sens un peu fatiguée, un peu mollassonne, etc. après le don. Et là aussi, le moment collation est important, ça permet de se reconstituer et ça permet aussi, surtout à l'EFS et puis les bénévoles qui sont là aussi, d'être certain que la personne ne reparte pas en étant affaiblie et qu'elle ne fasse pas un malaise, soit dans le métro, sur la route, etc. C'est un petit moment tampon pour être sûr qu'on part après son don et qu'on garde une bonne expérience positive de ce moment particulier.
La journée mondiale des donneurs de sang, c'est aussi donc pour valoriser, pour remercier finalement les 5% de Français qui donnent leur sang suffisamment régulièrement pour pouvoir aider les autres. Est-ce que le nombre de donneurs est stable depuis quelques années ou est-ce que vous vous rendez compte quand même que ça tourne quand même un petit peu ou est-ce qu'on reste sur 5% depuis des années ?
Ça ne change pas beaucoup, je pense. Alors effectivement, ça tourne, il y a un turnover logique. Les gens sortent du don du sang du fait de l'âge, du fait de la maladie. Donc la nécessité aujourd'hui, c'est de permettre à des nouveaux donneurs de compenser justement tous ceux qui sortent du cercle des donneurs réguliers. En termes de chiffres, je ne pense pas qu'on bouge beaucoup et par contre, je pense qu'on met des moyens de communication de plus en plus importants. Donc spontanément, on n'aurait sans doute pas ces résultats si on ne faisait pas toutes ces démarches. Donc il faut vraiment, c'est nécessaire de sensibiliser à cette cause les donneurs potentiels pour qu'ils deviennent des donneurs vrais.
Tout le monde, une fois qu'on respecte, donc si on n'est pas malade, si on n'a pas de traitement lourd, peut devenir potentiellement donneur.
Une grande majorité, oui, bien sûr.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une belle expérience. Hein. Quand on voit, quand on fait des collectes, quand il y a des étudiants qui viennent et qui donnent leur sang pour la première fois, donc au départ, ils ont un petit peu peur, mais bon, comme ils viennent en groupe aussi, c'est plus sympa. Il y a un côté défi aussi, il y a un côté partage, j'en reparle. Mais c'est vrai que quand on sort de là, il y a un sentiment de satisfaction très profonde.
J'ai vu les photos l'an dernier de cette journée mondiale, notamment à l'hôtel de ville, avec des files d'attente assez dingues, où il y a eu un monde fou. J'imagine que ça fait plaisir à voir.
Bien sûr, ça fait plaisir, oui, je voyais Anna hésiter. Ça fait plaisir, oui. Par contre, après, lorsqu'on est dans l'inconfort, que la fréquentation nous mette un peu dans la difficulté, ou en tout cas crée de l'attente, bon, c'est juste moins confortable, ça ne devient pas quelque chose de terrible, mais on préfère que ce soit fluide et que les gens gardent une stricte bonne expérience de cette expérience de don, surtout si c'est la première. Mais on préfère évidemment qu'il y ait des files d'attente plutôt que les salles soient vides, bien sûr.
Que deviennent ces poches de sang une fois qu'elles ont été récoltées ? Après cette journée mondiale, par exemple, tout le sang que vous allez récolter, qu'est-ce que vous allez en faire ?
On voit qu'en parallèle se déroule la préparation des poches et puis en même temps la qualification biologique des dons. C'est-à-dire que sur deux endroits différents vont partir les poches qui vont être préparées, je vais vous dire ce qu'on peut en extraire, et en parallèle les tubes qui sont prélevés en même temps que le prélèvement, qui eux nous permettent de qualifier, c'est ce qu'on appelle la qualification biologique des dons, qui sont traités dans des laboratoires qui travaillent aussi très rapidement et qui traitent un grand nombre de tubes, et qui nous permettent ensuite par un lien informatique secondaire de valider les poches et de les laisser sortir si tous les résultats sont normaux au niveau de la qualification biologique. Donc la poche de son côté va en préparation et en général elle subit donc une centrifugation et on va séparer ces fameux éléments du sang. On peut aller jusqu'à obtenir donc 3 éléments d'une seule poche. Quand on parle de sang total, elle est séparée en concentré de globules rouges, en couche leucoplaquettaire qui contient toujours un peu de plaquettes, évidemment. Et puis le reste, c'est du plasma qu'on peut utiliser, donc soit en plasma qu'on va dire sécurisé, c'est l'objectif d'être transfusé, et un plasma pour le fractionnement, c'est celui duquel on va extraire des médicaments.
Donc en fait, quand on donne son sang, on donne tout ça à la fois alors ?
On donne tout ça à la fois. Alors c'est pas traité de la même manière sur toutes les collectes. Chaque collecte a un petit peu un objectif, parce qu'il faut justement que la préparation puisse adapter le traitement ultérieur qu'elle en fait. Donc il y a des quantités qui doivent être respectées. Donc les globules rouges, c'est toujours récupéré, évidemment. Et par contre, plaquettes ou type de plasma sont variables en fonction des collectes.
Le don du sang, c'est un acte de partage citoyen, bénévole, solidaire. Ça a beaucoup fait parler l'an dernier, notamment face au nombre de gens qui ne viennent pas finalement donner leur sang. On dit que finalement, il ne faudrait pas rémunérer les donneurs. Pourquoi c'est important de rester sur ce bénévolat aujourd'hui ?
On a l'impression quand même que c'est ce qui garantit la qualité et en même temps l'état d'esprit, l'éthique dans laquelle on souhaite absolument rester. Il n'y a pas d'ambiguïté aujourd'hui sur les objectifs de l'établissement français du sang par rapport à ce souhait de maintenir le don anonyme, gratuit.
C'est la sécurité aussi des donneurs qui est garantie ainsi. Parce que c'est vrai que si les personnes venaient donner leur sang avec une contrepartie financière, ben ça peut devenir une manière de vivre en réalité. Et on peut dépasser largement les limites, même si on met... Enfin, voilà. Donc c'est un modèle éthique qu'on tient à conserver et qui est précieux.
Et dans certaines enquêtes, on voit clairement que certains donneurs ne seraient pas des donneurs rémunérés. Enfin des donneurs ou des vendeurs dans ce cas-là en tout cas. Ne viendraient pas si c'était un don rémunéré. Pour eux, ça changerait la signification de leur geste.
Parce que finalement, le don de sang, ça va au-delà de simplement se faire une piqûre et faire une prise de sang. C'est un don de soi-même pour beaucoup de donneurs qui viennent.
On parle de don de sang, don de soi et don de vie. Donc en fait, c'est vrai que c'est un acte qui n'est pas neutre. C'est un acte à la fois, il y a un donneur qu'on a remercié et mis à l'honneur parce qu'il avait fait, je ne sais pas quoi, 50, 70 ou 100 dons. Et on a dit, ben, merci pour tout ce que vous avez fait pour les malades. Et il a dit, oui, oui, mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est un acte courageux aussi. C'est courageux de donner son sang. On donne de soi. On se livre. Hein, c'est...
Il y en a beaucoup qui en retirent une certaine satisfaction aussi. C'est altruiste, mais en même temps, c'est quelque chose qu'ils tiennent à faire. Le mieux qu'on puisse voir, c'est les donneurs qu'on est momentanément, temporairement obligés de refuser. Et ceux-là qui venaient pour sauver une vie, lorsqu'on leur dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner, souvent c'est très compliqué. Il y a une déception qu'il faut vraiment gérer, avec des fois plus de temps à passer à expliquer la raison et réussir à donner les explications pour dire vous venez pour sauver quelqu'un, non pas pour prendre le risque de le rendre malade ou vous-même de tomber malade, donc aujourd'hui on ne peut pas le faire. Mais il faut bien ce temps d'explication pour que la déception n'empêche pas un retour éventuellement.
Si on est refusé à un instant T, on peut très bien être accepté 15 jours ou un mois après.
Notamment pour des phénomènes infectieux récents. Voilà, quelqu'un qui arrive et qui a à peine terminé son traitement antibiotique pour un syndrome infectieux, c'est pas le moment de donner. Donc si on lui l'explique bien, normalement c'est compréhensible. Mais quelqu'un qui a fait la démarche de venir et à qui on dit vous pouvez rentrer chez vous et aujourd'hui vous ne donnez pas, forcément c'est très décevant. Ça montre quand même l'implication et la signification du don pour les donneurs.
Est-ce que quand on vient donner son sang, il faut savoir son groupe sanguin ?
Non, c'est pas du tout nécessaire. Souvent les gens viennent donner plutôt pour le connaître. De toute façon, si vous êtes déjà connu à l'établissement français du sang, vous êtes dans des bases de données, et nous on l'a. Malgré tout, c'est quelque chose qui est contrôlé dans l'étape de qualification chaque fois. Ça nous permet aussi d'avoir un contrôle sur l'identité. Si par hasard on tombait sur une discordance, bien évidemment, on aurait besoin de creuser et comprendre ce qui s'est passé. Donc non, il n'y a pas besoin de le savoir. Non.
Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle donc que la journée mondiale des donneurs de sang, c'est le 14 juin. Vous retrouverez différentes collectes dans le Rhône, par exemple, ce sera à Écully, au Temple du Change, à Lyon, à l'Hôtel de Ville de Lyon, Place des Terreaux. Vous retrouvez tous les horaires sur le site de l'EFS. On vous les donnera également sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux, donc le docteur Vincent Bost, responsable des prélèvements du Rhône, et Anna Josephson, chargée de communication.
Merci.
Merci beaucoup. Si on peut en profiter pour remercier au passage les donneurs et tous ceux qui interviennent autour du don du sang, qui nous sont bien utiles tous les jours. Merci beaucoup.